Bonjour à tous et à chacun. Nous allons lire ensemble le premier texte qui va servir de base à notre méditation ce matin, en tout cas à la première partie de notre méditation. Nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 27, et nous lisons à partir du verset 12. Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. L'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore et il devint même un homme très puissant. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bovins et beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. Ils comblèrent tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés du vivant de ce dernier en les remplissant de terre. Alors Abimélec dit à Isaac, « Va, quitte ce pays, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit et dressa son camp dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Il s'installa et fit déboucher les puits qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père. En creusant dans la vallée, les serviteurs d'Isaac découvrirent une source d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en prétendant « Cette eau est à nous ». Isaac donna à ce puits le nom d'Ézec, dispute, parce qu'on s'était disputé avec lui à son sujet. Ensuite, ils creusèrent un autre puits pour lequel on lui chercha de nouveau querelle. Il le nomma Sitna, opposition. Puis il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne lui chercha pas querelle. Il l'appela donc Rehoboth, larges espaces. Car, dit-il, maintenant l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. De là, il remonta à Beer-Sheba. Isaac, le deuxième des grands patriarches, qui sont la référence de l'Ancien Testament pour la référence que Dieu lui-même établit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Isaac est probablement le moins connu des trois. Et nous voudrions nous arrêter un instant sur lui ce matin. Nous arrêter sur ce problème de l'eau dans les pays arides, ce problème des puits d'Isaac et des conflits qui en résultent. Problème de toujours, problème parce que ce sont des enjeux de vie qui sont en cause dans cette affaire-là. Il y a les eaux des surfaces, éphémères, et il y a les eaux des profondeurs, plus durables, les puits. Ils ont une grande importance. Creuser un puits, c'est se donner les moyens de s'établir dans la région, dans le pays. C'est une action indispensable surtout dans ces contrées-là. Isaac, l'homme qui a cherché autour des creusements des puits à s'installer dans ce pays. D'abord, les puits bouchés. Il est précisé dans notre texte que Isaac était l'objet d'une bénédiction particulière de Dieu et que l'Éternel le faisait prospérer dans tout ce qu'il faisait. Et la conséquence, c'est que les Philistins étaient jaloux, bien sûr, de cette prospérité d'Isaac. Et ils comblent les puits, les anciens puits, en les remplissant de terre, en privant ainsi d'eau les gens qui étaient avec Isaac. Il n'y avait plus moyen d'abreuver les troupeaux, donc de les faire vivre. Un moyen radical pour faire partir Isaac. Isaac a les moyens de rester, il est puissant, plus que les Philistins. Mais pour la paix, il accepte de partir. Et c'est la première des leçons que nous relevons ce matin et que nous voulons souligner. Pour la paix, Isaac accepte de quitter cet endroit et de chercher un autre lieu pour s'établir. Cela signifie beaucoup, même si à cette époque, le nomadisme était beaucoup plus dans les mœurs. Quitter la région où il est installé et refaire ailleurs le travail nécessaire pour s'installer. Voilà ce qu'Isaac a accepté. C'est donc un homme qui nous apparaît artisan de paix. Il est pour la paix et il le prouve en agissant ainsi. Là où Isaac s'installe, dans la vallée de Guérard, d'autres puits avaient été bouchés. Ces puits avaient d'abord été creusés par les serviteurs d'Abraham, puis comblés par les Philistins, puis débouchés par Isaac. Celui-ci leur donne les mêmes noms que ceux qu'ils avaient autrefois. C'était des puits qui représentaient beaucoup dans l'histoire de la famille et du peuple. Des générations entières étaient abreuvées à ces puits. Ils étaient fiables, ils étaient durables. C'était des sources profondes, des nappes souterraines qui assuraient la stabilité de l'approvisionnement en eau dans cette région. On pourrait simplement, ici, faire un parallèle entre ces sources d'eau vive et les sources d'eau vive dont il est question ailleurs dans l'Écriture et dont nous allons parler tout à l'heure. Déboucher les anciens puits, c'est retrouver les sources initiales de l'eau qui donne la vie. Retrouver les eaux pures, et pour faire un parallèle assez facile entre cette histoire et ce que nous pouvons en tirer comme leçon pour nous, nous pourrions dire que nous voyons déjà ici, dans les puits d'Abraham et d'Isaac, les sources de la parole de Dieu, les sources de la vérité, les sources de la pensée conforme à ce que Dieu souhaite. Retrouver les eaux pures de la parole de Dieu après avoir enlevé toute la terre, tout ce qui recouvrait l'eau de ces puits, tout ce qui les empêchait d'être atteintes et bu ces eaux vives. Une leçon aussi que nous reprendrons dans un instant. Car le peuple d'Israël vivait dans l'Ancien Testament de la parole de Dieu, comme le Nouveau d'ailleurs aussi, mais plus spécialement dans la connaissance et dans la mise en pratique de la loi de l'Éternel. Nous avons un épisode sur lequel nous ne pouvons pas nous arrêter longtemps ce matin, mais qui est assez significatif dans l'histoire du peuple d'Israël vers la fin de la période royale, C'est ce qui est arrivé du temps de Josias. On a retrouvé, et on a retrouvé parce qu'on l'avait perdu, le livre de la loi de l'Éternel. Ce livre avait été perdu, probablement, pendant la période royale qui a précédé la période de Josias. Et c'était la période de Manassé et d'Amon, qui étaient pourtant des rois de Juda, mais on avait perdu le livre de la loi de l'Éternel. On avait perdu la parole de Dieu. Quelle catastrophe! Et Josias a été celui qui a remis en honneur la parole de Dieu, qui l'a redécouverte et qui l'a mise à l'honneur. Les puits d'Isaac sont donc les puits à la fois creusés, bouchés et puis creusés à nouveau. C'est le bienfait de la vie. Nous avons lu donc que les bergers de Guérar contestent et revendiquent la propriété de l'eau trouvée par les bergers d'Isaac. « Cette eau est à nous, disent-ils. » Mais ce n'est pas eux qui ont travaillé, qui ont cherché et qui ont trouvé. Quand un bienfait aussi essentiel que l'eau est découvert, chacun veut se l'approprier, bien entendu. La possession de la source d'eau vive est importante. Elle donne toute sa valeur à la terre dans laquelle elle jaillit. Posséder l'eau, c'est posséder la richesse. Et on ne partage pas. Mais Isaac, à un moment donné, avant que le conflit ne dégénère, a su s'arrêter, abandonner ses droits, céder à la revendication violente et partir encore une fois ailleurs. Le puits est nommé dispute. C'est donc plusieurs fois que cet épisode s'est produit pour lui. Le même processus recommence ailleurs, un autre puits nommé opposition. Relevons donc une nouvelle fois cette patience, cette persévérance d'Isaac dans les actions pour la paix. Isaac est un véritable artisan de paix. Et sa persévérance est récompensée. Sa patience est récompensée. On aurait pu interpréter autrement l'attitude d'Isaac, comme celle d'un être faible, peut-être même lâche, surtout soucieux d'éviter les conflits, toujours prêt à céder et à reculer. Mais ce n'est pas ainsi que se présente Isaac. Il affronte la contestation, mais il sait s'arrêter et quitter le terrain du conflit, même si cela lui coûte. Il ne se venge pas lui-même, il ne se fait pas justice avec ses propres forces. Il préfère la paix à la guerre. Il a creusé un autre puits pour lequel on ne lui cherche pas querelle. L'adversaire ou le concurrent est resté loin. Désormais, sur cette terre, il peut vivre sans être en butte à la présence agressive des adversaires. C'est le grand espace de la liberté. Le puits est appelé larges espaces. Cette faveur est attribué à Dieu, la paix et la liberté. Le puits, source de paix, reconnaissance à Dieu. La source profonde de la vie, la source de la paix. Isaac est un homme béni par Dieu et reconnu comme tel. Celui dont on cherche la faveur et l'alliance, et avec lequel Abimélec vient au moins signer un pacte de non-agression. Et puis, c'est donc le lieu bien connu de Beersheba, le puits du serment. Le puits du serment. Dans cette première partie, nous voulons donc garder bien présent à l'esprit que Isaac est l'homme qui a cherché à vivre en paix et qui a payé le prix pour cela, qui a travaillé pour cela. C'est un exemple d'artisan de la paix. Je voudrais maintenant faire une deuxième lecture dans le Nouveau Testament pour la deuxième partie de notre méditation. J'aimerais lire avec vous le passage bien connu de la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Je lis donc dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Nous retrouvons donc dans cette deuxième partie une autre histoire de puits sur laquelle nous allons nous arrêter quelques instants. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama, « Comment ? Tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc, ton eau vive ? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. « Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'aie plus soif et que je n'aie plus besoin de revenir puiser de l'eau. » « Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » « Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire « je ne suis pas mariée ». En fait, tu l'as été 5 fois et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu dis est donc la vérité. Maître, répondit la femme, je vois que tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison ? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer « C'est Jérusalem. »« Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ? Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit : Je sais qu'un jour, le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Sur ces entrefaites, les disciples revinrent, et nous lisons un peu plus loin. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils l'invitèrent à rester et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles et il disait à la femme « Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Je voudrais lire encore quelques versets pour la deuxième partie de notre méditation. Toujours dans l'Évangile selon Jean, un peu plus loin que ce que nous avons lu, nous trouvons au chapitre 7. Le dernier jour de la fête, qui est aussi le plus solennel, Jésus se tint dans le temple. Et il se mit à proclamer à haute voix. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que boive celui qui croit en moi. » Comme l'a dit l'Écriture, « De son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il désignait ainsi l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans la gloire. Et quelques chapitres plus loin, toujours dans l'Évangile selon Jean. Voici ce que déclare Jésus. « Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre défenseur qui restera avec vous pour toujours. C'est lui, l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez vous aussi en ce jour-là. Vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui s'attache à mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père et à mon tour, moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu aies à te manifester à nous et non pas au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Je vous ai dit ces choses tandis que je demeure auprès de vous. » Le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Et puis, nous terminons nos lectures du texte biblique par encore une petite citation de Jean chapitre 16. J'ai encore, dit Jésus, à ceux qui l'écoutent, beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Cette parole, évidemment, s'adresse à ses disciples. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité toute entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Nous avons commencé notre méditation en parlant des puits d'Isaac et de l'eau vive de ce puits qui avait été trouvé. Et nous avons encore, cette fois dans le Nouveau Testament, cette référence essentielle à l'eau vive. L'eau vive que Jésus donne à ceux qui croient en lui, à ceux qui se confient en lui, et qui devient en eux source d'eau vive pour les autres. C'est cela que je voudrais, en cette dernière partie de la méditation, souligner pour nous tous ensemble ce matin. Le puits des eaux vives, la source intarissable de ce que le Seigneur est venu apporter et de tout l'enseignement que Jésus a donné à ses disciples, celui qu'il leur a donné de son vivant, celui que l'Esprit va leur rappeler et toutes les choses que le Seigneur veut que ses disciples connaissent et qui seront l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre permanente de l'Esprit en tous ceux qui croient. Cette eau vive qui coule du sein de ceux qui se confient en l'Éternel. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, dit Jésus à la femme samaritaine, n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante jusque dans la vie éternelle. Voilà, frères et sœurs, ce que le Seigneur a fait et continue de faire pour chacun de nous. Il nous a donné, par sa parole, la vérité, la connaissance de tout ce qui est vrai, juste et bon, et que nous sommes invités à saisir et à nous nourrir de cette substance pour que notre vie soit éclairante pour tous ceux qui nous voient vivre. C'est tout un champ, tout un chantier, toute une vie qui est ainsi définie par cette parole de Jésus. L'eau que vous boirez deviendra en vous une source jaillissante jusque dans la vie éternelle. Quelle grâce, quel privilège pour nous qui sommes si faibles, si fragiles, que de connaître cette vérité profonde, de pouvoir la retrouver constamment comme la source des eaux intarissables, comme la source des eaux vives. Et non seulement cela, mais de pouvoir, par notre témoignage, par notre manière de comprendre ce que le Seigneur nous dit, par tout ce qu'il nous enseigne dans sa parole, être des sources d'eau vive pour tous ceux qui nous connaissent et pour tous ceux qui nous voient vivre. Que le Seigneur nous accorde la grâce de le vivre pleinement, ce privilège de recevoir l'eau vive et d'être pour les autres source d'eau vive. Amen. Je vous invite maintenant à nous préparer.